Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde, aujourd'hui édition du lundi 22 janvier 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République centrafricaine, le gouvernement déplore le non-lieu prononcé en France dans l'affaire des viols d'enfants lors de l'opération Sangaris.
Au Liberia, prestation de serment aujourd'hui de la légende du football George Weah. Il remplace Ellen Sirleaf Johnson à la tête du Liberia.
Ici à Washington, un vote est prévu à midi heure locale pour éviter un shutdown prolongé du gouvernement fédéral.
Poursuite de la tournée du vice-président américain Mike Pence au Moyen-Orient, après l'Égypte et la Jordanie, Israël.
Et ne manquez pas notre page sport avec les derniers résultats du CHAN ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des observateurs des Nations Unies ont été menacés et molestés par les forces de sécurité dimanche à Kinshasa lors des marches interdites contre le président Joseph Kabila et leur dispersion violente, a indiqué une porte-parole. Certains de nos observateurs sur le terrain ont été menacés et molestés à Kinshasa dans les communes de la Gombe et Lemba, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo, Florence Marshall. La MONUSCO a par ailleurs estimé que l'usage de la force avait été disproportionné. On a noté que les forces de défense et de sécurité n'avaient pas appliqué les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité, conformément aux normes internationales, selon la porte-parole.
En République centrafricaine, les autorités centrafricaines ont déploré pendant le week-end le non-lieu du parquet de Paris dans l'affaire des abus sexuels présumés subis par des enfants mineurs entre 2013 et 2014. Des soldats français de l'opération Sangaris sont pointés du doigt. Le point avec Mohamedou Humfa.
Les juges ont rendu un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune inculpation faute de charges suffisantes. Dans ses réquisitions, le parquet soulignait qu'au terme de l'enquête, il ne peut être affirmé qu'aucun abus sexuel n'a été commis. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a estimé que le parquet de Paris devrait aller un peu plus loin. Ange Maxime Kazaki a salué le pourvoi en cassation introduit par la société civile et les avocats. Ces accusations de viol d'enfants en Centrafrique visant des militaires français durent déjà depuis 3 ans. La justice française a écarté la perspective d'un procès au terme d'une enquête délicate qui laisse des questions en suspens et des parties civiles déçues. Révélées en 2015, ces accusations d'abus sexuels avaient terni la réputation de l'armée française déployée dans le pays sous l'égide de l'ONU pour restaurer la sécurité après des mois de violence. Depuis, d'autres scandales touchant des contingents d'autres pays ont éclaté et les Nations Unies ont été critiquées pour leur manque de réactivité.
La légende du football George Weah prête serment aujourd'hui comme nouveau président du Liberia après avoir promis d'améliorer l'emploi et l'éducation, soulevant l'espoir d'améliorer la vie dans ce pays ouest-africain 15 ans après d'atroces guerres civiles. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, qui quitte le pouvoir après 2 mandats consécutifs de 6 ans chacun.
Un procès pour corruption impliquant l'ancien vice-président angolais Manuel Vicente doit s'ouvrir en son absence aujourd'hui à Lisbonne, au risque d'aggraver les tensions diplomatiques entre le Portugal et l'Angola, qui s'estiment offensés par son ancienne puissance coloniale. Manuel Vicente, ancien responsable de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, est accusé par le ministère public portugais d'avoir corrompu le procureur Orlando Figueira pour que ce dernier classe 2 enquêtes ouvertes en 2011 et dans lesquelles il était soupçonné de blanchiment d'argent.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le bras de fer budgétaire se poursuit à Washington entre républicains et démocrates. Les tractations ont repris hier pour trouver un compromis. Les élus des deux bords campent toujours sur leur position et le Sénat américain a reporté à lundi midi le vote sur le shutdown. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Oui, c'est Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui a fait savoir hier soir que les débats reprendraient ce lundi, renonçant à un vote initialement prévu dans la nuit. Les lignes n'ont pas suffisamment bougé pour trouver un accord budgétaire temporaire. D'un côté, les démocrates réclament des engagements sur l'immigration et le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis. De l'autre, les républicains rejettent toute discussion sur ce thème sans la réouverture préalable de l'État fédéral. Ce statu quo se traduit aujourd'hui chargée par la mise au chômage technique de centaines de milliers d'employés fédéraux. Les militaires américains poursuivront leur opération, mais sans être payés. Le président américain Donald Trump, invisible depuis le début du week-end, n'a pas immédiatement réagi dimanche soir à cette nouvelle échéance. Dimanche matin, il avait salué via Twitter la détermination de son camp à se battre pour l'armée et la sécurité aux frontières, accusant ses adversaires politiques de simplement vouloir un flot d'immigrants illégaux sans le moindre contrôle. Rappelant que c'est la première fois qu'un shutdown intervient, alors que la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat sont aux mains d'un même parti, Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, a longuement ironisé sur une incapacité supposée des républicains à gouverner. Le dernier shutdown remonte à 2013 sous l'administration du président démocrate Barack Obama. Il avait duré 16 jours.
En Afghanistan, au moins 43 personnes, dont 14 étrangers, selon la plus grande station de télévision du pays, ont été tuées dans une attaque terroriste pendant le week-end. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Cet attentat, qui a visé l'hôtel intercontinental de Kaboul, a été revendiqué par les talibans. Eric Manirakiza.
L'attaque a duré une douzaine d'heures. D'après un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, le commando était composé de 6 hommes. Ils ont tiré à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des clients en otage, parfois immédiatement abattus. Les djihadistes avaient en outre déclenché un incendie au 4e étage qui a duré une bonne partie de la nuit. L'attaque a été maîtrisée vers 6h temps universel et 126 personnes ont été secourues. Les unités afghanes ont bénéficié du soutien de la coalition occidentale sous mandat de l'OTAN pour abattre les assaillants. La Norvège a notamment contribué au dénouement. Un comptable de l'hôtel qui s'est échappé grâce à sa connaissance des lieux a mis en cause la sécurité de l'hôtel. Il a affirmé que les gardes se sont sauvés sans combattre ou riposter. Les grands hôtels fréquentés par des touristes ou des occidentaux sont des cibles privilégiées des attentats. Pourtant, des mises en garde précises avaient été lancées depuis 48 heures concernant le risque d'attaque contre des lieux fréquentés par des étrangers. La dernière attaque avait visé en mars 2014 l'autre 5 étoiles de Kaboul, le Serena. 9 personnes avaient été tuées.
Le vice-président américain Mike Pence poursuit aujourd'hui et demain en Israël sa tournée au Moyen-Orient après l'Égypte et la Jordanie. Au programme, des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin. Outre son discours au Parlement israélien, il doit également se rendre au mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem et au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem. Lors de la précédente étape de M. Pence en Cisjordanie, le roi Abdallah a exprimé ses préoccupations quant à la récente décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et le numéro 2 américain a dit que, d'un commun accord, ils ont accepté de ne pas être d'accord sur la question et qu'il a insisté sur la nécessité de relancer les pourparlers de paix. Mais aucune réunion n'est prévue entre M. Pence et les leaders palestiniens. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Burkina Faso regorge l'une des plus grandes réserves de manganèse au monde. Cette mine se trouve près de la frontière avec le Mali et le Niger et contiendrait plus de 100 millions de tonnes. Mais son exploitation traîne depuis une décennie. Les différentes compagnies avaient conclu des contrats d'extraction sans toutefois les exécuter. Actuellement, l'économie burkinabé repose essentiellement sur le coton et l'or. L'Afrique de l'Est devrait connaître le plus fort taux de croissance du continent, estimé à près de 6% en 2018. D'après les projections de la BAD, l'intensification des investissements publics dans les infrastructures, la reprise de l'agriculture et les activités manufacturières favoriseront cette dynamique. L'Afrique du Nord sera le deuxième plus fort taux de croissance du continent avec plus de 5%. Le premier ministre canadien Justin Trudeau aux États-Unis du 7 au 10 février. Il doit se rendre à Chicago, Los Angeles et San Francisco pour obtenir des soutiens de chefs d'entreprise et de décideurs américains en vue de préserver l'accord de libre-échange nord-américain ALENA que le président Donald Trump veut renégocier. De nombreux conflits commerciaux empoisonnent les relations entre les deux partenaires, notamment sur le bois de construction, le papier et l'aéronautique.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au CHAN 2018, le Maroc accroche devant son public.
Au stade Mohamed V, les Lions de l'Atlas ont fait match nul 0-0, un match sans enjeu face au Soudan, également qualifié pour les quarts de finale de ce CHAN. Écoutons la réaction de Jamal Selami, l'entraîneur des Marocains.
On a garanti notre qualification pendant les deux premiers matchs. Pour le troisième match, pour nous, c'était une occasion pour faire jouer les autres joueurs, parce que c'est très important qu'ils soient compétitifs, et surtout lorsque tu joues un match officiel comme celui-là contre une équipe qui est bien organisée, c'est très important. Ça veut dire que pour nous, c'est très important qu'on ait fait jouer les joueurs remplaçants. Il y a certains qui ont été à la hauteur, il y a d'autres qui leur manquent certaines choses, mais l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était d'abord rester à casa, ne pas avoir de carton, ne pas avoir de blessés et faire tourner l'équipe.
Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc. À Marrakech, dans un match également sans enjeu entre deux équipes éliminées, la Guinée sauve l'honneur et l'emporte 1-0 face à la Mauritanie. C'est Sankone qui marque l'unique but du match à la 15e minute pour le Sili National de Guinée. Écoutons Ibrahima Sori Touré, l'entraîneur adjoint des Guinéens. Il savoure ce dernier succès.
Je vais dédier cette victoire à mon ami, à mon frère, qui a été limogé, le coach de la paix, Bangoura. Aujourd'hui, on a joué ce match à son nom, parce que vous savez, comme nous, on a eu des difficultés de ce championnat. En nous éliminant dès le premier tour contre le Soudan, contre le Maroc, si on réussit aujourd'hui à faire la victoire, je ne ferai que remercier le bon Dieu.
Ibrahima Sori Touré, l'entraîneur adjoint de la Guinée. En revanche, soupe à la grimace pour Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie. 3 défaites en 3 matchs.
Mis à part le match contre le Maroc où j'ai trouvé qu'on avait été un peu timoré, où on n'avait pas osé ou réussi en tout cas à jouer de l'avant comme on aurait souhaité, j'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs sur ce qu'on avait demandé, sur ce qu'on voulait faire, c'est aller de l'avant, trouver du jeu sur les côtés, des dédoublements, des centres et puis des occasions. On a ce soir, on s'est créé encore beaucoup d'occasions. On concrétise pas parce que c'est un manque de lucidité à un moment donné, un manque de spontanéité. Par contre, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire aller de l'avant, créer du jeu. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que les joueurs, il faut qu'ils continuent dans cette voie-là.
Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie.
Même scénario dans le groupe B avant les derniers matchs ce lundi.
À Casablanca, la finale du groupe B entre les deux équipes déjà qualifiées, Namibie et Zambie. À Marrakech, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent l'Ouganda dans la même situation. Un match sans enjeu, si ce n'est retrouver l'honneur pour la Côte d'Ivoire. Les explications d'Amine Birouk pour VOA Afrique sur place.
C'est avec l'intention de quitter le CHAN, la tête haute, que la Côte d'Ivoire affronte ce lundi à Marrakech l'Ouganda. Débarqué au Maroc avec l'ambition de corroborer la 3e place obtenue 2 ans plus tôt, les hommes d'Ibrahima Camara ne se sont pas montrés à la hauteur des espoirs placés en eux. Décevant devant la Namibie et battu dans les derniers instants du match, totalement dominé jeudi par la Zambie, il ne leur reste que l'obstacle ougandais pour laver leur image. En face, les Cranes ont certes perdu leurs 2 rencontres, mais ont tout de même séduit par leur envie de proposer du jeu et d'aller de l'avant. Ils devront faire preuve de plus d'efficacité dans le secteur offensif s'ils désirent enfin prendre les 3 points de la victoire. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Handball africain avec la CAN 2018 au Gabon.
La 4e et avant-dernière journée de la phase de poule a vu l'élimination officielle du Cameroun hier. Les Lions indomptables ont concédé une 3e défaite face au Congo, 22-29 dans le groupe A. Cela signifie que les 4 autres équipes du groupe, Tunisie, Algérie, Gabon et Congo, sont assurées d'être en quart de finale. Dans l'autre match du jour, Tunisiens et Algériens se sont séparés sur un match nul, 25-25. Dans le groupe B, les tenants du titre égyptiens ont dominé l'Angola, 25-20. Les 2 nations sont assurées d'aller en quart de finale. L'autre rencontre a vu le Maroc dominer la RDC, 33-28.
Cyclisme, le Rwanda à l'honneur avec la Tropical Amissa Bongo.
Et oui, c'est Joseph Areruya qui a remporté la 13e édition hier de cette épreuve cycliste gabonaise. La dernière étape hier entre Bikele et Libreville, remportée au sprint par l'Italien Luca Pacioni. Joseph Areruya devient ainsi le 3e Africain à remporter la Tropical Amissa Bongo après l'Érythréen Nathanaël Béran en 2014 et le Tunisien Rafa Hachtioui en 2015.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Lakers de Los Angeles ont dominé les Knicks de New York 127-107. Malgré une grosse performance de Kyrie Irving, 40 points, Boston, le leader de la conférence Est, s'est incliné à domicile contre la lanterne rouge Orlando, 95-103. Enfin, Brooklyn bat Détroit, 101-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, l'activiste Mayadine Mahamat Babouri, arrêté le 30 septembre 2016 à N'Djamena, est toujours en détention. On lui reproche d'avoir, dit-on, critiqué sur les réseaux sociaux la mauvaise gouvernance du régime du président Idriss Déby Itno, qu'il accuse d'avoir plongé le pays dans la situation de crise actuelle. Un groupe de militants des droits de l'homme s'est constitué en comité pour entreprendre des actions légales conformément au nouveau code de procédure pénale pour demander sa libération. Précision d'André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Inculpé pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale et d'intelligence avec un mouvement insurrectionnel, Mayadine Mahamat Babouri a fait plus de 15 mois en prison sans être auditionné sur le fond. Le comité qui vient d'être mis en place envisage d'utiliser des voies légales pour exiger sa libération. Manga Jean Bosco en est le porte-parole.
Nous avons actuellement une nouvelle loi qui dit qu'un détenu qui n'est pas jugé au-delà de 4 mois est en situation de détention abusive et le juge peut décider qu'il soit mis en liberté d'office. Donc, étant donné qu'en droit, les lois pénales plus douces sont d'application immédiate, le prévenu doit en principe bénéficier de cette loi favorable pour sa mise en liberté d'office.
Il dénonce par ailleurs les conditions de sa détention et qualifie le refus de sa mise en liberté provisoire pour des raisons de santé de terrorisme judiciaire institutionnalisé qui est au-dessus de toute logique judiciaire normale. Manga Jean Bosco déclare par ailleurs que Babouri est un otage de la démocratie et donc un prisonnier d'opinion.
Il a des problèmes de vision, il a des problèmes de mobilité en raison de ses pieds qui étaient enchaînés pendant un temps et nous estimons qu'il n'est pas humain. Et c'est justement un prisonnier d'opinion parce qu'actuellement, il n'est pas un prisonnier de droit commun.
Pour Maître Olivier Guara, c'est parce que son client fait partie de la famille présidentielle qu'on veut le faire taire. Et sans se rendre compte, sa détention pendant plus d'un an sans condamnation tombe dans la situation de non-droit.
Dans un état de droit, ce genre de situation ne s'explique tout simplement pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne soit inculpée chez un juge d'instruction qui se trouve en N'Djamena et qu'il soit déporté dans une prison de haute sécurité qui est réservée à des gens qui sont condamnés. Et là où le bas blesse, cette déportation a été faite à l'insu même du juge d'instruction. On a simplement voulu le museler du fait de sa situation familiale. Il est assez proche du régime. Donc on veut justement qu'il serve d'exemple. Et je pense que c'est une très mauvaise méthode.
Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimmy Arabi dit ne pas être informé de l'arrestation et de la détention de Mayadine Mahamat Babouri alors qu'il fut secrétaire général à la présidence.
Moi, personnellement, je ne connais pas ce cas. Je ne sais pas s'il est au niveau de la justice, mais je vais essayer de me renseigner pour savoir de quoi il s'agit.
Cependant, une requête a été déposée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de N'Djamena par ses avocats pour demander sa mise en liberté d'office pour détention abusive conformément au nouveau code de procédure pénale. André Kodmajingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, les mototaxis sont désormais reconnus et acceptés par l'État. Nés au lendemain de la guerre, en 2002, dans les zones centre-nord et ouest de la Côte d'Ivoire, le transport en commun avec les mototaxis est en plein essor, surtout à Boaké. Malgré le désordre sur les routes qu'occasionnent ces mototaxis et les nombreux accidents de la route dont on leur impute la responsabilité, l'État ivoirien a décidé de les reconnaître officiellement à travers l'instauration d'une patente annuelle inscrite dans l'annexe fiscale 2018. Sur place, notre correspondant à Boaké, Siri Kibaro.
Dans son article 33, l'annexe fiscale 2018 prévoit d'instituer une patente forfaitaire à la charge des exploitants des mototaxis à deux ou à trois roues utilisés dans le transport des personnes et ou des marchandises. Le coût de cette patente s'élève à 20 000 francs CFA l'année pour les mototaxis à deux roues et à 25 000 francs CFA l'année pour les mototaxis à trois roues avec une majoration de 1 500 francs CFA par attelage. Toujours, selon l'article 33 de cette annexe fiscale, ce dispositif fiscal vient pour corriger l'inégalité inégalité de traitement entre les mototaxis et les véhicules de transport à quatre roues qui s'acquittent d'une contribution annuelle de 120 480 francs CFA et auxquels ils livrent concurrence dans le secteur des transports. Une mesure qui réjouit Djarasouba Yakuba, un chauffeur de taxi.
Il y a longtemps qu'on paye patente. Bon, maintenant, là, si les mototaxis aussi ne payent pas patente, là, c'est pas normal. Normalement, ils doivent payer aussi comme nous. Ben, c'est le même boulot qu'on fait là. C'est le même taxi. Donc, moi, je trouve ça normal, quoi.
Chez les chauffeurs de mototaxi, cette nouvelle est diversement appréciée. Oumar Diallo, chauffeur de mototaxi et père de 5 enfants, se désole face à cette nouvelle taxe.
Tout le monde sait ce qui se passe à Boaké. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de familles vivent dans ça aujourd'hui. Un père de famille qui prend un mototaxi, il route avec toutes les dangers qui se passent dans la ville pour pouvoir nourrir 2000 francs ou bien 1000 francs pour ta famille qui n'arrive pas à gagner. Et on lui demande encore de payer un autre taxe pour l'État. Vraiment, c'est dommage.
Le raisonnement est totalement différent chez Kone Abou, également chauffeur de mototaxi. Lui a choisi d'adhérer à cette nouvelle fiscalité puisqu'elle va amoindrir ses dépenses dans la mesure où, chaque mois, comme tous les autres chauffeurs de mototaxi, il devait payer la somme de 3000 francs CFA à la mairie.
Avec la nouvelle mesure de l'État, je pense que cela nous arrange par rapport à les 36 000 francs par an de la mairie.
Selon l'annexe fiscale, les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 53 millions de francs CFA. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Mali, le gouvernement américain à travers l'USAID vole au secours des centres de santé. Un nouveau projet de 3 ans vient de voir le jour, soutenu et financé par l'USAID Mali, en partenariat avec le gouvernement malien, et mis en œuvre par IntraHealth International. L'un des objectifs majeurs du dit projet, c'est le renforcement des ressources humaines des centres de santé de l'intérieur. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
En matière de santé, l'USAID a toujours été du côté des autorités maliennes, avec des formations et des appuis dans le cadre du renforcement des ressources humaines. Docteur Cheikh Koumar Touré, directeur de IntraHealth International.
Le projet USAID Capacity Plus a permis la réouverture rapide de l'école des infirmiers de Gao après la crise de 2012. Aussi, un programme de bourse d'études dans le cadre de ce projet a permis à 204 étudiants de continuer leur formation après la crise. Ce projet a aussi assuré la formation de plus de 200 enseignants des instituts de formation en sciences de la santé de Bamako, CAI, Sikasso, Ségou, en approche de formation par compétences.
Après sa phase initiale de 6 mois, le projet va appuyer le ministère de la Santé pour le développement des stratégies de recrutement, la motivation et la fidélisation des partenaires de santé au niveau décentralisé. Docteur Salif Samaké, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'hygiène publique du Mali.
Il est important que nous tous nous profitions de la présence du projet parce que les domaines d'intervention et les approches techniques ont été tout à l'heure développés et je pense que ces questions-là peuvent être traitées. Même si le projet couvre un nombre limité de régions, mais profitons-en pour faire la démonstration de la possibilité de certaines approches et niveaux afin que les autres partenaires accompagnent le gouvernement pour que ça soit institutionnalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
La préparation du système de santé a développé les aptitudes du personnel de la santé en matière d'évaluation des risques et de prévention. La préparation et la riposte aux épidémies seront aussi développées pendant les 3 ans du projet. Robert Schmidt, directeur par intérim de l'USAID Mali.
Le précédent projet a contribué de façon significative à la mise en place du système informatisé de gestion des ressources humaines en santé. L'octroi de bourse d'études aux étudiants issus des familles démunies dans les régions du nord du pays.
Les infirmières et les stages-femmes bénéficiaires de ce nouveau projet n'ont pas caché leur reconnaissance envers le gouvernement américain qui a financé leur formation à travers l'USAID.
J'ai la satisfaction de pouvoir accomplir un rêve d'être une stage-femme grâce à l'accompagnement de l'USAID à travers son projet capacité physique. J'exprime toute ma satisfaction et ma reconnaissance au peuple américain pour leur soutien à ma formation. Je prends l'engagement de servir les populations dès la fin de mes études, Inch'Allah. Cette brousse a été un grand soulagement pour mes parents, car les deux dernières années, ils ont eu un problème de paiement à cause de la crise. Néanmoins, j'aimerais bien que tous les étudiants de l'école puissent bénéficier d'un soutien de la part de l'USAID.
Après sa phase de test, le projet qui a une durée de 3 ans sera mis en œuvre dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Gao, ainsi que dans la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burundi, certains commencent à consommer des drogues dures comme la cocaïne, et ce, dès leur jeune âge. Le Burundi Association of People Who Use the Drugs a été agréé l'année dernière pour combattre la consommation de ces substances et informer la jeunesse. Correspondance de Christophe Kourounziza.
Alain est un jeune Burundais qui consomme la drogue depuis plus de 10 ans. Âgé de 26 ans aujourd'hui, habitant un quartier de la capitale Bujumbura, il lui a été vraiment difficile de se défaire de la consommation de la cocaïne. Mais depuis les fêtes de fin d'année, il ne consomme plus de drogue. Mais il explique à VOA Afrique combien il est dur d'abandonner la drogue.
Ça a commencé avec des problèmes de la vie. On commence parce qu'on dit que c'est une bonne chose, c'est bon, il faut goûter. C'est une très mauvaise chose, il ne faut jamais goûter. Il y a ceux qui n'ont jamais goûté de pas essayer vraiment. Parce que je dirais que c'est la chose la plus dangereuse que j'ai vue dans la vie. Il ne faut jamais goûter.
Alain aime la musique qui, pour lui, est devenue un remède à la drogue. Pas n'importe avec quel instrument, l'ikembe traditionnel.
Ah, je dirais la musique, l'art en général, ça peut aider, c'est une bonne occupation. Ça aide à penser à autre chose, t'oublies un peu la drogue.
Richard Ninine Azgwe est coordonnateur de l'association burundaise qui œuvre sur toute l'étendue de la République du Burundi pour la réhabilitation et la réinsertion des usagers de drogue. Il reconnaît qu'il y a des milliers de Burundais qui prennent de la drogue, surtout des jeunes.
Il y a beaucoup de gens qui prennent de l'héroïne. Le cannabis, c'est toujours un peu soft, mais l'héroïne, ça prend une ampleur grave. J'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé par le cannabis, puis j'ai mélangé par les cachets, ça veut dire les pilules. Après les pilules, j'ai commencé à mélanger le cannabis par le tabac et l'héroïne. Puis j'ai pris l'héroïne à part et puis j'ai commencé à m'injecter. Donc je connais le monde de la drogue.
Dans cette association de lutte contre la drogue, 643 personnes sont usagères d'héroïne. Parmi ces jeunes, 225 sont usagers de drogue injectable selon une étude qui a été faite il y a quelques mois. Mais le chiffre peut avoir évolué selon l'étude menée par l'Alliance burundaise contre les drogues en collaboration avec le ministère de la Santé. Sur 175 personnes à mairie de Bujumbura qui utilisent les drogues injectables, le taux de prévalence du VIH-SIDA est de 10,2%, presque 10 fois plus que le taux de 1,4% pour le taux des gens qui vivent avec le VIH en mairie de Bujumbura. Le chargé de plaidoyer et des renforcements des capacités institutionnelles à cette association de lutte contre l'usage des drogues au Burundi estime qu'il faut dépénaliser l'usage de certaines drogues. Eric Senghiyonva.
Il faut que ces enfants sachent bel et bien que ce sont des produits toxiques. C'est un bon moment d'arrêter ça. Aux parents, je parle de l'approchement et de la stigmatisation. Deux fois, ces enfants sont victimes de la stigmatisation. Il faut que les parents comprennent ces enfants. Par contre, il faut faire recours aux psychologues, il faut faire recours aux experts, il faut faire recours aux médecins, et surtout, il faut dépénaliser.
Selon des spécialistes, les parents peuvent empêcher les enfants de consommer de la drogue en leur parlant ouvertement des risques encourus avec la consommation de tels produits et aider ainsi les enfants à sortir de cette situation. Les mêmes spécialistes appellent les autorités à punir sérieusement les personnes qui font le trafic des drogues. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici votre gars Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab et aussi notre sujet de base de la semaine continue. Que faire quand les voisins vous dérangent ?
Ah oui, vous avez des voisins qui vous dérangent là. Que faire? C'est quoi la solution? Il faut trouver la solution à ce problème. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31. Je répète, 001 703 350 37 31. Ou comme certains disent, plus 1. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.